ba da ba da ba.
Couleur d'automne. Aussi loin que le regard se pose sur les êtres ou sur les choses, on s'aperçoit que l'automne est là. Rouge, jaune, ocre et or se mélangent en une somptueuse gamme que l'on admire encore et encore tant on est sous le charme. Le ciel se couvre, la pluie tombe. Dans son sillage, le vent emporte les fragiles feuilles mortes, les faisant virevolter comme des papillons affolés. Dans les bois, les châtaignes et champignons abondent, faisant la joie des promeneurs gourmands. Mais c'est aussi la saison des chasseurs, traquant le gibier mort de peur, les cruels et méchants bûcherons, abattant un à un les grands arbres géants, fiers et majestueux, mais encore les tout premiers flocons qui recouvrent le sol, endormant le paysage peu à peu.
Qui suis-je ? J'étais un homme marié. J'étais la vie qui faisait l'amour. J'étais le fruit qui a donné la vie à Laetitia et Christophe. J'étais une personne avec un travail, des amis, un toit. J'étais l'homme qui pleurait de joie. J'étais heureux, optimiste. J'étais assis dans la vie. Puis, ce fameux premier dimanche du mois de mai 1982, patatrac, rupture d'anévrisme cérébral. J'étais devenu malade, handicapé. J'étais dans un train qui roulait moins vite que le vôtre. J'étais envahi par la révolte des incompréhensions. J'étais les branches d'un arbre mort. J'étais une pierre au fond de l'eau. Dans le silence. J'étais sans désir, sans besoin, sans choix. J'étais dans la lune chaque nuit. J'étais vulnérable. Plus de travail, plus de toit, plus de personnes à aimer. J'étais un homme perdu dans son histoire. J'étais à terre. Puis, je suis devenu petit à petit un combattant. Je suis reconnaissant des sourires échangés avec le personnel soignant. Je suis une personne handicapée, mais je fais face à la maladie. Je suis celui qui a fait confiance. Je suis une personne vivante. Enfin, je suis un homme qui a recouvré sa dignité.
Automne. Le ciel d'un gris plombé semble écraser la terre détrempée. Les arbres, aux branches inondées, ont l'air à demi étouffés par l'atmosphère pesante et feutrée. Le feuillage, déjà bien clairsemé, prend de chaudes teintes dorées, tandis que le sol se couvre lentement d'un tapis roux et bruyant. Tout paraît endormi, il n'y a pas un bruit, pas un cri. Les oiseaux se terrent dans leur nid pour échapper au froid et à la pluie. Et sous leurs imperméables et leurs parapluies, les rares passants se font aussi tout petits. Journée triste et monotone, c'est l'automne.
Allons enfants de la fratrie, d'une jeunesse au printemps flétrie. Marchons, marchons, qu'un sang pur de souvenirs abreuve le sillon d'un avenir qui, au présent, s'écrit. Du temps de l'arrêt bien droite sur la couture du peigne. La mèche rebelle déguisée sous un calot d'anarchie. Un bel uniforme repassé d'écolier. Apprenant le garde-vous et le pas de société cadencé. Sur les bancs d'école sclérosée d'où l'on ne rêvait que de s'échapper. Du temps de qui suis-je? Qui être? Qui croire? Que croire? Comment croire? Face à cette icône immaculée plongée dans la pénombre de nos interrogations. Quelle image veut-elle nous renvoyer? Une vision pâle, lisse, uniformisée, ou bien l'écran sombre de nos certitudes ébranlées? Est-ce ainsi que nous écrivons le journal de bord de notre vie, courbé au bord du vide, prêt à s'effondrer tel un naviné déstructuré, ou bien serein, posé sur un rebord de fenêtre dans un repos apaisé, sans savoir lequel de ces deux états siège au premier temps du passé et présent composé. Qui sommes-nous vraiment? Des fleurs empesséchées? Des pantins célestes aux bonheurs et détresses masqués sous un maquillage crayonné? Des sourires qui se parlent au travers de rideaux de verre fumé? Marchons, marchons sur la route d'avant. Rappelons-nous ces étapes accidentées qui, au détour d'un virage, nous laissent seuls le cœur cabossé. Mais que reviennent le désir et l'envie, et nous voilà de nouveau bien carrossés, prêts à naviguer. Hissez haut, matelot, largue la grand voile face à l'embrun de ton destin. Choisis ta place, bâbord ou tribord, mais droit devant, accoudé au grand foc, la houle t'enlacera. Quand, pour mettre pied à terre, de ton mât de misaine tu descendras, elle te manquera. Il est si doux de se laisser griser. Et puisqu'un marin n'a pas le pied terrien, cheval d'orgueil tu deviendras. Icare s'envolera sur la piste, dans un tournoiement de sabots ailés, creusant le sillon de la locomotive de la liberté. La gare du bout de ton chemin, cette odyssée qui s'efface, tu la devines, enfin. À la descente de ton train, tu iras t'asseoir, tranquillement, sur le banc de ce que tu as été, dans le fauteuil de ce que tu es, sur le tabouret de ce que tu ne seras jamais. Peut-être celui que tes espérances auraient aimé enfanter. Peut-être celui que les hasards d'un destin farceur auront voulu que tu sois. Sûrement un peu et beaucoup de tout cela. Une seule chose est sûre. Comme toutes et tous avant toi, au bout de ton décompte, tu seras là, accoudé au bureau de la bibliothèque de ta mémoire, entouré des parchemins de ton histoire, cette jolie petite foire au chapitre toujours nourri d'espoir.
Voici la suite des souvenirs de Henri Panetta. Les années cerceaux.
J'ai peu de souvenirs de l'école maternelle. La mémoire étant parfois capricieuse, elle vous fait perdre une partie de votre vie. De cette école, le peu dont je me souvienne, c'est la cour, avec ses bacs à sable ronds. À l'intérieur, il y avait une grande salle de jeu arrondie où, durant l'hiver, les maîtresses nous occupaient comme elles pouvaient. De cette école, une seule personne est restée dans ma mémoire, Madame Turel. Elle était une dame assez grande, de forte corpulence. Dame à tout faire de cette école, elle s'occupait aussi bien des enfants que du ménage. Sa gentillesse et sa patience ont fait d'elle la seconde maman de tous les enfants. Tous, nous avons gardé de cette dame un souvenir de tendresse et de dévouement. Durant toute sa carrière, elle a vu défiler plusieurs générations d'enfants. Elle a fait les mêmes gestes avec le fils de ce père de famille qui, 20 ans plus tôt, se consolait dans ses bras. Avec la même tendresse, elle a su trouver les mots qui ont transformé les pleurs en rires. Et sortant un mouchoir de sa blouse blanche, elle a essuyé les larmes qui mouillaient les yeux.
Un jour est venue l'entrée à l'école primaire. La grande école, comme on disait à cette époque. Pour tous les enfants de 6 ans, c'était un événement considérable. C'était une autre vie qui commençait. La veille, ma mère m'avait plongé dans le grand baquet de bois qui servait à laver le linge, rempli d'eau chaude. Elle m'avait frotté comme si je n'avais pas été lavé depuis 15 jours. Le matin, elle me fit lever un peu plus tôt que d'habitude. Elle me passa un gant mouillé sur la figure pour me réveiller un peu plus vite. Ce jour-là, je n'ai jamais été aussi long à prendre mon petit déjeuner. J'avais tellement peur de cette entrée à l'école primaire. Gentiment, ma mère me pressait. « C'est un grand jour, » disait-elle en m'habillant. J'avais, ce jour-là, trois choses neuves. La blouse grise, très longue, les sandalettes et le cartable. Et nous voilà sur le chemin de l'école. Je n'avais pas encore dit un mot, ni pleuré, mais j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Lorsque nous sommes arrivés dans la cour, il y avait déjà plusieurs femmes du quartier avec leurs enfants. J'étais soulagé lorsque j'ai vu plusieurs de mes copains. Le directeur de l'école a demandé le silence pour faire l'appel des élèves. Quelques minutes plus tard, tous les élèves étaient en rang devant le maître de leur classe. Ce jour-là, ma véritable enfance a commencé. Jamais je ne l'oublierai, car ce fut pour moi un grand moment de ma vie. Je n'aimais pas beaucoup cette école avec sa vaste cour, dont le portail s'ouvrait sur la grande route. Elle était entourée d'une barrière avec de larges barreaux plats. J'avais l'impression d'être en prison. Au fond de cette cour qui était goudronnée, le préau, où les élèves se mettaient à l'abri par mauvais temps. Les platanes autour desquels nous jouions nous servaient aussi à nous dissimuler pour les entretiens discrets et les échanges secrets. À côté du préau, les toilettes, un endroit important pour les grands. Quelquefois, on voyait un élève de première, surpris par le maître en train de fumer, se faire tirer par l'oreille jusqu'au bureau du directeur. Moi, je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, dans mon quartier. À peine arrivé à la maison, je quittais ma blouse grise, je prenais mon 4 heures et je filais retrouver mes copains.
Merci à Jacques, Rose et Patrick de nous avoir dit aujourd'hui leurs mots du cœur.